That's why I go straight to where the job sends. All over England, the top end. Il est 18h sur Radio G.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
La quotidienne de Radio G et de Radio Campus Angers, ensemble sur le 101.5 et le 103 pour une émission spéciale Premier Plan.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Simon, bonjour à toute l'équipe.
Salut Simon.
Bienvenue sur les antennes de Radio Campus et Radio G pour la première de nos deux émissions spéciales consacrées au festival Premier Plan. On est ensemble pendant près d'une heure avec nos deux rédacs pour vous faire vivre ou revivre les débuts de cette édition 2026, une édition 2026 lancée ce samedi. D'ailleurs, nos équipes y étaient, le reportage est à suivre dans cette émission. Au programme également, focus sur Cinéma Sprint, zoom sur les bénévoles et services civiques présents sur l'événement ou encore tour d'horizon des rétrospectives à l'affiche. Enfin voilà, vous savez tout de cette émission spéciale Premier Plan et ça démarre maintenant.
Topette et le sous-marin, spécial Premier Plan, 101.5 FM et 103 FM.
Et pour débuter cette émission, on accueille en studio Johan et Suzanne de Radio G. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors pour nos auditeurs et auditrices, vous avez décidé de revenir sur l'historique du festival Premier Plan.
Exactement. Et pour ça, on va retourner jusqu'en 1989 avec sous l'impulsion de Claude-Éric Poirou, qui est le fondateur de la salle d'art et d'essai Les 400 Coups. Donc Claude-Éric Poirou va créer le festival Premier Plan à cette date, puisqu'à l'époque, il avait une ambition claire, créer un rendez-vous entièrement consacré au cinéma européen, encore en pleine expansion à l'époque, et mettre en lumière des films peu ou pas distribués. C'est là que naît toute la singularité du festival, révéler de nouveaux cinéastes, offrir un espace où le public peut rencontrer les réalisateurs et voir leurs premières œuvres sur grand écran. Et en parallèle, permettre également de découvrir ou de redécouvrir les grandes œuvres du patrimoine du 7e art. Aujourd'hui, Premier Plan reste fidèle à ses valeurs, en mettant chaque année en compétition des centaines de premiers films européens, en célébrant l'histoire du cinéma à travers des rétrospectives et des hommages, et en formant un nouveau public, notamment de nombreux jeunes spectateurs. Premier Plan, c'est un festival qui réunit chaque hiver des milliers de personnes animées par une passion commune, le cinéma. Ce sont 9 jours de festival et une programmation particulièrement riche. Premier long métrage, court métrage, films d'école, plans animés, mais aussi plusieurs programmes thématiques. Mais au-delà des projections, Premier Plan propose des ateliers, des tables rondes, des conférences et des rencontres professionnelles. Parmi eux, les ateliers d'Angers, créés en 2005 avec Jeanne Moreau, qui accompagne des jeunes réalisateurs dans la préparation de leur premier long métrage. Une démarche qui incarne pleinement la vocation pédagogique et engagée du festival, soutenir, transmettre et faire émerger le cinéma de demain. Maintenant, place à ce que vous réserve cette édition.
Et oui, effectivement, un beau festival nous attend cette année, que ce soit pour les adeptes de cinéma ou pour les novices. Mais à l'honneur cette année, à Premier Plan, plusieurs rétrospectives, de nouveaux invités d'honneur, nouveaux jurys, des focus, des avant-premières. En tout, c'est plus de 100 premiers films projetés par de nouveaux réalisateurs qui sont mis en avant. Des films étudiants, etc. On reprend tout depuis le début, on va vous expliquer. Cette année, le jury du festival a décidé d'inviter, en tant que président, Thomas Caillet, réalisateur et scénariste, notamment reconnu pour Le règne animal, qui avait fait grand bruit l'année dernière. En 2023, enfin il y a 2 ans, raffinant sur son passage le prix du regard à Cannes, ainsi que 5 récompenses au César. À côté, on retrouve 3 autres jurés, India Air, actrice, Laura Wendell, réalisatrice et scénariste, ainsi que Antoine Reinhardt, lui aussi acteur. Ce premier jury est accompagné d'un deuxième qui se chargera de juger les courts-métrages, cette fois-ci composé de Annabelle Langron, actrice elle aussi, Quentin Dolmer, acteur, et accompagné par la présidente du jury, Iris Kaltenbach, réalisatrice et scénariste. En compagnie de vous, le public, ainsi que des votes amateurs, vous serez en mesure de voter aussi pour le film qui vous aura le plus marqué entre ces 19 longs métrages, 20 courts et 29 films étudiants. Tous sont en lice pour tenter de remporter les différents prix qui leur sont attitrés. Au niveau des rétrospectives, Premier Plan a décidé de mettre à l'honneur le grand cinéaste Herzog, réalisateur allemand connu pour ses fictions et documentaires en tout genre. Une rétrospective Juge et Témoin est de mise cette année aussi, si vous voulez découvrir ou redécouvrir des classiques du genre, comme Les 12 hommes en colère ou La vérité de Clouseau avec en tête d'affiche la défunte Brigitte Bardot. Enfin, une dernière catégorie est dédiée à la ville de Naples, nommée Napoli, pour ceux qui sont tentés par la découverte de nouveaux horizons à différentes époques. Enfin, pour faire un petit détour, les invités d'honneur de cette année sont deux femmes. On retrouve Karine Veillard, grande actrice française, qui nous fait le plaisir de venir à notre rencontre sur Angers, ainsi que Laetitia Doche, venue pour présenter son film Le procès du chien, qui avait fait tout de même pas mal de bruit l'année passée.
Place maintenant aux chiffres clés de cette 38e édition. Si l'on vous dit 2160. 2160, c'est le nombre de films reçus cette année et visionnés par le comité de sélection. Au total, 2160 films, cela représente 3 mois de visionnage intensif pour vous proposer une programmation complète.
Ensuite, 104 000. 104 000 euros, c'est le montant de la subvention régionale supprimée pour l'édition 2026 du festival Premier Plan d'Angers, soit environ 15% des aides publiques. Une coupe qui persiste pour la deuxième année consécutive, qui représente 7 à 8% du budget global, estimé à 1,45 million d'euros. Mais malgré cela, Premier Plan a su se concentrer sur ses atouts, sa programmation et ses invités.
Enfin, 83 000, c'est le nombre de spectateurs, dont 40% de jeunes de moins de 25 ans, de l'édition de l'année dernière. Un chiffre impressionnant, à deux pas du record historique. Pour rappel, le festival avait atteint son pic lors de sa 30e édition, en 2018, avec 85 000 entrées en 10 jours. Alors cette année, qui sait, le festival pourrait bien battre un nouveau record. En tout cas, c'est l'objectif.
Et en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite aux organisateurs et organisatrices du festival. Merci beaucoup à vous, Johan et Suzanne, et passez un bon festival. Et le festival, lui, il a débuté ce samedi avec la cérémonie d'ouverture. Jules et Sidonie s'y sont rendus.
Dans l'auditorium du centre des congrès, la salle est pleine et tout le monde attend avec impatience le lancement de cette 38e édition de Premier Plan. La soirée s'est lancée sur un discours de Christophe Béchu, maire d'Angers, représentant la ville qui accompagne le festival tous les ans. Il a été suivi par Jérôme Clément, président du festival, qui a officiellement déclaré ouvert les festivités. Le président du CNC, Gaëtan Bruel, a également renouvelé son engagement auprès du festival dans un joli discours mettant en valeur l'importance de l'accès à la culture et ses différents financeurs, sans oublier les décisions discutables de la région. Et enfin, Claude-Éric Poirot, délégué général du festival, a invité à monter sur scène le protagoniste principal de cette soirée, Fabrice Lucchini, accueilli par le public sous une pluie d'applaudissements. Il est venu nous présenter à sa manière son nouveau film sur Victor Hugo.
On dit, t'as qu'à faire un biopic, Lucchini, ou t'as une barbe, t'as un gros ventre. J'ai dit, non, moi, le biopic, c'est pas mon truc du tout. Je dis pas que c'est pas bien, ça m'ennuie de faire semblant d'être des personnages historiques. On me propose souvent des personnages historiques pour me grimer, faire semblant. Non, ce qui m'a... Alors j'ai dit, non, moi, je ferai pas de biopic. Et cette mette en scène a dit, on va trouver une solution pour parler d'Hugo tout le temps, sans dire on va faire un film sur Hugo. Et elle a eu cette idée. Et elle a dit on va faire un bonhomme qui s'appellera Zucchini. Alors Zucchini en italien ça veut dire petite courge. Alors j'ai dit pourquoi pas, ça continue, petite courge.
Après sa prestation, Lucchini sort sous une standing ovation et c'était déjà l'heure pour nous de découvrir le film d'ouverture, Victor comme tout le monde. Après la séance, nous avons parcouru le centre des congrès pour aller à la rencontre des spectateurs et spectatrices et prendre leur retour sur le film. Karima et Juliette nous en parlent.
J'ai pensé ça très touchant et puis c'est aussi, ça parle de Victor Hugo et puis on a beaucoup de textes de Victor Hugo qui sont cités, donc faut aimer l'auteur, mais personnellement c'est un auteur que je porte dans mon cœur, donc ces textes me parlent, ces textes me touchent, donc très contente d'avoir vu un film contemporain qui aborde des sujets compliqués comme la relation père-fille à travers les textes de Victor Hugo. Ça fait vraiment du bien là de rigoler. Lucchini était on fire, donc ça a bien inauguré le festival, je trouve, l'a lancé sur une bonne ambiance. Et le film était, pour un film parlant beaucoup de Victor Hugo, je l'ai trouvé très quand même accessible et moi j'ai passé un vraiment bon moment.
Nous avons aussi rencontré Agnès et Catherine, des habitués du festival.
Ah, ça m'a fait les 38e fois. On a vu en début d'après-midi une saison blanche et sèche, c'est vraiment très bien. Et puis on voit aussi des films en compétition, tout jeune, film d'école, premier plan, enfin on fait tout. J'ai été surprise, là, par exemple, d'entendre qu'il y avait au Festival Premier Plan 30% du public qui avait moins de 25 ans. Parce que je trouve qu'on est beaucoup, beaucoup de vieux quand même. Ça fait plaisir, mais je ne sais pas trop où ils sont. Il y a beaucoup de lycéens, sûrement aussi. Mais je trouve que c'est bien. C'est un beau festival.
En tout cas, chaque année, le festival plaît toujours autant. Alors si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas une seule seconde.
Un reportage signé Jules et Ninon, et non pas Sidonie, je m'excuse. On continue de parler du festival Premier Plan avec toute la team Radio Campus et Radio G, mais avant on fait une première pause musicale. Cette année, Premier Plan propose trois rétrospectives autour de trois thèmes, parmi eux Napoli, avec entre autres le documentaire Diego Maradona de Asif Kapadia, sorti en 2019. On écoute tout de suite un extrait de la bande originale par Antonio Pinto. C'était Antonio Pinto, extrait de la BO du documentaire Diego Maradona, diffusé demain à 17h et vendredi à 19h30 à l'occasion du festival Premier Plan. Vous êtes toujours sur Radio Campus et Radio G pour cette première émission spéciale consacrée justement au festival Premier Plan. Une 38e édition déjà bien entamée avec ce dimanche la cérémonie de clôture de Cinéma Sprint, un événement créé en 2020 qui consiste à créer un film court en 48 heures. Jules et Sidonie, cette fois c'est bien elles, ont pu interviewer François Gobert, cofondateur du Cinéma Sprint avec Quentin Ménard. Ils ont aussi rencontré des participants et participantes.
Salut François. Alors concrètement, à qui s'adresse le Cinéma Sprint ?
Les participants ne se connaissent pas à la base. Donc notre billetterie, dans ce sens, elle est ouverte à tous et à toutes. Donc ça c'est très important, qu'on soit professionnel, semi-professionnel, étudiant, novice. On est 14 ans, qu'on en est 84. Il n'y a pas de distinction là-dessus. Et en fait, c'est un petit peu premier arrivé, premier qui peut prendre sa place, quoi. Dans la limite des 100 places qu'on a mis à dispo cette année. Donc, on n'a pas de profil type.
Et alors, pendant toute l'aventure, est-ce que les équipes sont accompagnées par des professionnels ?
On a en plus, on va dire, des intervenants encadrants. Ça fait très scolaire de dire ça, mais en fait, nous, on les appelle les mentors coach, qui sont des pros de la région et pas que d'ailleurs, hein. Il y en a qui viennent de Paris aussi, qui sont plutôt des profils réels, metteurs, metteuses en scène, et qui vont accompagner les équipes pendant toute la durée du Cinéma Sprint. Donc ils sont 6, ces mentors, en tout cas dans un premier temps, ils vont chacune accompagner 2 équipes pendant toute la durée du Cinéma Sprint. On rajoute à ça 2 autres profils qui sont aussi professionnels, qui sont des coachs. On a un coach plutôt image, qui est quelqu'un qui est réal par ailleurs et qui est cadreur-monteur et qui va pouvoir accompagner l'ensemble des équipes. Et on a un dernier profil sur le son, donc qui est un compositeur, chef son et mixeur et qui va également pouvoir accompagner et aider toutes les équipes sur le son, qui est très important au Cinéma Sprint.
Comment se forment les équipes pour mener les projets ?
Alors ça, c'est la spécificité de l'événement. Le vendredi soir, quand on accueille tout le monde à 18h à WeForge, qui est un espace de coworking où toutes les équipes travaillent pendant le week-end, on fait en fait une session de pitch. Donc la session des pitch d'idées, c'est en gros un moment où les volontaires, ceux et celles qui ont une idée de film ou de projet audiovisuel qu'ils aimeraient mener à bien pendant le week-end, le présentent à l'ensemble de l'audience en une minute. Et on va sélectionner sur ces 30-35 idées présentées, par exemple, 12 idées qui ont récolté le plus de votes. Et c'est sur ces 12 idées qu'on va former les
équipes. Vous avez fait le choix de ne pas imposer de thème. Pourquoi cette liberté était-elle importante ?
Alors ouais, c'est une bonne question. Alors on nous la pose pas souvent comme ça. On nous demande souvent s'il y a un thème. Et en effet, il n'y en a pas parce que, en gros, nous, l'événement se veut quand même très très libre dans la prise de décision et dans les orientations des projets. On a quand même des contraintes, parce que des contraintes naissent la créativité, on en est conscient. Donc les contraintes, par contre, elles sont plutôt d'ordre cadre. L'objet filmique qu'on appelle le film court doit être en fait un prototype, une ébauche d'un projet plus ambitieux. Et donc dans ce sens-là, on ne trouvait pas nécessaire de rajouter d'autres contraintes de fond.
Les films courts peuvent prendre tout type de forme, documentaire, fiction ou autre. Comment faire pour juger de la même manière tous ces formats ?
Alors nous, c'est notre un petit peu devoir de bien briefer nos jurys, qui sont tous des producteurs et des productrices, mais qui ont aussi des casquettes par moment de réal ou d'autres administrateurs, on va dire, d'organisation audiovisuelle. On a également un public qui est là et qui, par sa diversité, on va quand même accueillir cette année normalement un peu plus de 300 personnes en public, donc c'est absolument énorme. Et il y a un prix du public, et donc du coup, le public, on le brief aussi en amont et il est plutôt généralement réceptif à différentes typologies de formats.
Où sont tournés les films ? Est-ce que les lieux sont imposés ou laissés au choix des équipes ?
C'est à WeForge que, on va dire, entre guillemets, 80% du Cinéma Sprint se passe, mais d'un point de vue travail et d'un point de vue logistique. Et ensuite, les équipes, le samedi, partent tourner sur les coups de midi, tu vois. Donc, tu as des équipes, des fois, ça arrive, qui tournent sur place, donc qui tournent à WeForge parce que les cadres leur vont bien. Et puis, tu as la grande majorité des équipes qui vont tourner autre part. Et donc, les lieux de tournage sont aussi une non-contrainte, entre guillemets, c'est-à-dire que, pareil, liberté, vous vous débrouillez aussi. Il y a à la fois de la liberté au Cinéma Sprint, mais il y a aussi ce côté prototype, on fait avec ce qu'on a.
À restitution, on demande aussi de défendre son projet pendant 8 minutes. Est-ce que ça correspond au temps de passage complet devant le jury ou seulement au pitch ?
En fait, c'est 8 minutes au global. Donc, ce n'est pas 4 plus 8, c'est 8 au total sur une prise de parole, dont 4 minutes potentiellement maximum de présentation du film, quoi, de projection pardon, du film. Donc, on rajoute à ça 3 minutes de questions avec les membres du jury. Donc, ça fait 11 minutes au total de présentation orale pour présenter son projet.
Est-ce que vous avez eu des retours de projets qui ont continué à se construire après l'événement ?
On a des projets qui continuent. On a des projets qui ont continué. Tu vois, il y a des projets qui sont encore en cours. Et on va dire que le projet le plus abouti, entre guillemets, c'est un projet de l'année dernière, celui de Cécile Botson qui s'appelle Le Souffle du Mambo. Là, qui normalement va être en tournage dans un mois, quoi. Au mois de février, il tourne. Donc c'est un projet qui est sorti du cinéma screen, c'est une réalisatrice angevine et qui est venue participer l'année dernière, qui a créé son premier prototype et qui derrière a réussi à produire en fait tout simplement ou à faire produire son projet et là qui est en tournage en février.
Et pour conclure, si tu devais résumer le cinéma sprint en quelques mots, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit ?
On nous a souvent qualifié de vortex, de machine à laver, d'émotions et de créativité. Et je trouve que c'est des qualificatifs qui nous vont bien, en fait. C'est à la fois quelque chose d'hyper intense. Le cinéma sprint, c'est hyper intense. En termes de travail, en termes de stress, ça peut l'être à un moment quand il va falloir aller pitcher devant tout le monde. Mais en même temps, c'est dans cette intensité, il y a énormément d'excitation, il y a énormément de sympathie, il y a énormément de rencontres, d'échanges. Il y a des bonnes vibes, quoi, des bonnes ondes. C'est-à-dire que nous, on s'efforce à créer une expérience dans cet événement qui est hyper chouette, qui fait du bien en fait aux gens. Et ça, on met vraiment un point d'honneur à ça avec Quentin.
Merci beaucoup François d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes allés avec Sidonie voir les résultats et comme vous allez le voir, l'ambiance était au rendez-vous.
Quentin et François ont mis le feu à la salle en faisant leur rentrée, en courant autour du public et en chantant Tragédie. Juste après ce show, ils ont fait un retour sur les règles de l'événement et ont précisé le programme de la soirée. Les 12 films courts sont passés à la suite dans un ordre aléatoire. Il a fallu rester attentif toute la soirée pour les départager et remettre les prix.
Et on a le premier prix du cinéma sprint, le deuxième prix et le troisième prix. On a un prix du public, donc surtout vous restez bien avec nous à la fin du 12e projet. Vous serez peut-être un peu fatigué, mais vous restez avec nous. Il y aura un QR code à flasher et vous allez participer. Et enfin, le jury de la presse, qui le fameux jury qui décidera également de son projet coup de cœur.
On a pu interviewer Adam, le réalisateur et acteur de Loving is Easy, une histoire inspirée de son frère sur le désespoir amoureux et la pression sociale. Il a reçu la mention spéciale du jury. Et nous explique qu'est-ce qui l'a amené au cinéma sprint.
J'ai tenté ma chance l'année dernière. J'avais une autre idée de projet. Et malheureusement, mon projet n'avait pas été pris. Mais j'ai trop kiffé l'expérience. Et j'ai voulu revenir. Je voulais vraiment réaliser un film et à la fois jouer dedans. Parce que j'ai toujours voulu jouer dans un film, toujours voulu faire un film.
Mais il n'y a pas que des réalisateurs pour monter un court-métrage. Il faut toute une équipe technique et des acteurs. Willy, qui a participé à L'Euphorie d'une nuit, grand gagnant du cinéma sprint, nous explique comment il en est arrivé à faire partie de ce projet.
Alors, ce que j'ai fait, j'ai principalement fait le son, la prise de son, un petit peu du mixage, et je joue aussi le rôle du flic à la fin qui a la gâchette facile derrière les jeunes. Mais là, c'est vrai que cette année, en tout cas, quand je me suis inscrit, parce que c'est ma deuxième participation, cette année, je voulais plutôt jouer. Donc, j'ai quand même essayé plutôt de démarcher des projets pour voir si je cherchais quelqu'un pour le jeu. Et donc, du coup, je me suis laissé démarcher par la bande de jeunes quand ils m'ont dit « Oh, tu voudrais que tu fasses un flic ?» Je dis « Allez !»
Acteur dans Un Pair de France, Yannick nous parle de l'expérience Cinéma Sprint.
Moi, ce qui me plaît dans le fait de participer à ça, c'est qu'effectivement, il n'y a pas le choix. Tu arrives, tu dois faire en deux jours le film et puis c'est tout. Quoi. Mais moi, ce qui m'a surtout plu, là, c'est de rencontrer plein de gens qui ont envie aussi de faire des films, voir comment ils sont inspirés. Là, je suis assez halluciné quand même du niveau global.
Ce fut un week-end riche en émotions pour les participants qui ont tous réussi à produire leur film en 48 heures. Cette aventure se renouvelle l'année prochaine au Festival Premier Plan,
Donc notez-le dans votre agenda.
Cinéma !
Un reportage de Jules et de Sidonie. On continue de parler du festival Premier Plan avec toute la team Radio Campus et Radio G. Mais avant, on fait une nouvelle pause musicale. Comme je le disais tout à l'heure, cette année, Premier Plan propose trois rétrospectives autour de trois thèmes, parmi eux Juge et Témoin, avec entre autres le film Anatomie d'une chute de Justine Trier. On écoute tout de suite PIMP de Baco Rhythm and Steel Band, reprise du titre de 50 Cent présent dans le film. C'était Pimp de Baco Rhythm and Steel Band, reprise du titre de 50 Cent, un morceau présent dans le film Anatomie d'une chute qui sera diffusé jeudi à 16h30. Vous êtes toujours sur Radio Campus et Radio G pour cette première émission spéciale consacrée justement au festival Premier Plan. Et pour faire un festival, il faut certes une programmation, mais il faut aussi du monde pour l'organiser. C'est le cas de Maël, service civique engagé sur le festival. Paolo l'a rencontré.
Premier Plan est possible grâce à de nombreuses personnes qui organisent le festival. En vérité, cela fait plus de 6 mois que le festival se prépare et passe seulement par les salariés de l'association. Derrière, il y a aussi des bénévoles et un statut un peu particulier, le statut de service civique. Et on voulait mettre en avant ce statut un peu particulier aujourd'hui, celui donc de service civique. Salut Maël.
Salut.
Donc toi, tu es en service civique depuis le début de l'année à Premier Plan, enfin depuis mi-septembre, c'est ce que tu me disais.
C'est ça.
T'as travaillé sur la programmation et tu vas continuer à apporter ton aide pendant le festival. Ça a été quoi un peu ton rôle depuis le mois de septembre ? Qu'est-ce que tu fais à Premier Plan ?
Alors moi, je suis service civique aux actions culturelles et donc en fait, l'idée c'est que on rend le festival accessible à différents publics, donc. Ça va des enfants aux étudiants et étudiantes, collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes, et aussi des personnes un petit peu plus âgées. Par exemple, on a un jury amateur qui est composé de bibliothécaires.
Cela fait alors plus de 6 mois que tu travailles sur la programmation du festival. 6 mois, il y a vraiment besoin d'autant de temps pour préparer le festival?
Oui, et même un peu plus si on aurait pu.
Ah oui, parce qu'il faut contacter les réalisateurs, faire un choix aussi. Est-ce que tu as participé à ça?
Non, ça, on a vraiment une team de programmation qui connaît vraiment et qui a des clés que nous, on n'a pas. Surtout que le festival Premier Plan a une ligne directrice très spécifique. On passe pas les mêmes films qui passent à Cannes. En fait, le festival Premier Plan met en lumière les premiers films des réalisatrices européens et européennes. Donc en fait, sauf séance spéciale, il n'y a pas beaucoup de films américains, il n'y a pas beaucoup de grands noms, puisque ce sont des gens qui font leur premier pas au cinéma. Et donc, par exemple, là, j'ai récemment vu un film qui va passer du coup à Premier Plan, un film qui vient du Danemark, par exemple. Un film qu'on voit pas beaucoup en salle en vrai.
Et toi, le cinéma, c'est aussi ta passion, j'imagine. En quoi, selon toi, réaliser ta mission de service civique à Premier Plan, c'est plutôt cohérent avec cette passion-là du cinéma?
Ouais, le cinéma, en fait, ça fait partie de moi depuis que je suis toute petite. Je saurais pas te donner comment ça a commencé et tout. J'ai découvert le festival Premier Plan quand j'étais au lycée. J'ai fait une journée avec mon lycée en seconde et en première, en terminale, bon, l'année Covid. Et l'année dernière, j'étais à la billetterie, donc j'étais salariée à la billetterie. Et là, du coup, je suis pour 6 mois, donc un laps de temps encore plus grand. Et juste, en fait, travailler pour un festival de cinéma avec une équipe saine, gentille. Et enfin, c'est génial parce que c'est un événement culturel en plus qui est en région. Tout n'est pas à Paris ou à Cannes, du coup, pour le festival de Cannes, le plus connu.
Et j'imagine que le festival Premier Plan, c'est aussi un travail collectif. Ouais, il est vraiment, c'est mis en avant, ça aussi, que le Premier Plan, vous travaillez tous ensemble dans la même direction. C'est pas trop compliqué, des fois?
Non, parce que, en fait, les gens arrivent un petit peu au compte-gouttes. Il y a 6 personnes qui sont en CDI. Ensuite, les CDD arrivent avec les services civiques et stagiaires. Il y en a à la programmation, il y en a pour les ateliers d'Angers. En fait, j'ai envie de tous les citer, mais le festival est tellement vaste et j'ai l'impression qu'on ne le connaît pas du tout. Du coup, on ne connaît pas en tout cas toutes les facettes du festival, alors que franchement, ce qu'il propose, c'est tellement... Franchement, un festival comme ça en région, c'est... Enfin, bon, bref, si vous m'écoutez, allez-y.
Et quel est ton rôle, toi, pendant ces 10 jours de festival? On a un peu compris ce que tu faisais avant, là, depuis mi-septembre, mais pendant ces 10 jours-là de festival, qu'est-ce que tu vas faire exactement?
Disons que... Comme il nous fallait un petit peu plus de temps, on va continuer de monter les projets, de répondre aux mails, de répondre aux besoins des gens qu'on va accompagner. Donc là, on a un projet avec les étudiants et étudiantes de LUCO. Ils vont venir filmer sur des sujets différents. Il y a aussi d'autres étudiants un petit peu plus âgés qui sont en formation à l'INSPE, donc pour devenir des futurs professeurs des écoles. Mais aussi, du coup, ça va être vraiment de l'accueil, montrer où sont les lieux, par exemple, à nos jurés amateurs, donc 2 bibliothécaires et des étudiants et étudiantes. Donc ça va courir partout, on n'aura pas le temps d'aller au cinéma, mais enfin, c'est ça aussi qui est trop cool.
Oui, parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Premier Plan, c'est pas seulement des projections de films, mais il y a également des formations, plein d'autres activités qui sont derrière. Alors si on se concentre plus sur la programmation du festival, est-ce que toi, tu as des films ou des activités que tu nous conseillerais?
Carrément. Alors ce qui est un petit peu moins connu, ce sont les lectures de scénarios. En fait, ça, c'est une compétition. On a 3 scénarios, il me semble, qui sont lus par des comédiens comédiennes professionnels, et en fait donc le scénario c'est la base d'un film qui va après sortir en salle. Pendant ce moment, pendant 2 heures, tu te fais ton image de film parce qu'en fait on te lit le scénario. En plus c'est par des comédiens comédiennes, donc c'est encore plus vivant. Et peut-être, je sais pas, 3-4 ans après, même moins, il sera en salle. Et ça, en fait, on le fait nulle part ailleurs. Donc c'est trop bien. Et sinon, tous les films de la compétition, ils sont hyper novateurs. Et enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Ils sont tous hyper singuliers. On a une avant-première qui s'appelle Olivia, qui est tirée du livre La vie est un film. C'est un film d'animation, mais que je trouve hyper touchant. Et on a des étudiants d'ailleurs qui travaillent dessus. Donc ce n'est pas que pour, enfin, c'est pas que pour les enfants. Le thème est vraiment super. Donc enfin voilà, il y a des propositions pour tout le monde, en fait, qu'on soit curieux, passionné. Il y en a franchement pour tous les goûts, mais il ne faut pas hésiter à explorer.
Je voulais revenir un peu sur ton statut, qui est quand même particulier, de service civique, puisque tu n'es ni salarié, tu n'es pas bénévole non plus. Tu es un service civique. Tu le vis comment, ce statut?
Bah franchement, très très bien, c'est très intense. C'est vrai qu'on est quand même sur un statut, effectivement, comme tu dis, qui est particulier. Mmh. On fait quand même beaucoup de choses. Disons qu'on bouge beaucoup, on est très très actif et active. Surtout là, pendant la durée du festival, en fait, c'est... Oui, on n'est pas salarié, on n'est pas stagiaire, mais on est quand même là pendant 6-7 mois, puisqu'il y a une autre service civique qui est avec moi, qui s'appelle Mona. Mais on fait beaucoup de choses, quand même.
Ton service civique, il dure jusqu'en avril.
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu vas organiser d'autres événements d'ici là, donc après le festival? Tu vous préparez déjà pour l'année prochaine ou...
Non, là, on se focalise vraiment sur l'édition qui va arriver. Peut-être que dans les têtes des responsables, bien sûr, que je pense, ils pensent aux années futures. Et sinon, oui, nous, ce qu'on fait, parce que comme on travaille aussi avec des tout petits enfants, en fait, on a une compétition qui s'appelle les Chenaplans. Donc, on y a un programme pour les 3 ans et pour les 6 ans. Et donc, en fait, on va passer, du coup, ces programmes, ils vont passer en compétition, les élèves vont venir, ils vont voter pour celui qu'ils préfèrent, seulement les enfants. Et ensuite, après le festival, sur tout le mois de février, on fait ce qu'on appelle les Chenaplans délocalisés. Donc, en fait, on va en région angevine, donc Trélazé, Avrier, tout ça. Mmh. On va dans des cinémas. Et en fait, les classes vont venir, du coup, découvrir ces programmes de Chenaplans.
La suite, quand on est en service civique, c'est quoi pour toi? Reprendre des études ou essayer de trouver peut-être un autre travail qui mêle l'événementiel et cinéma?
Alors déjà, pourquoi j'ai fait un service civique? Je parle juste de ce point-là. Notre chère Christelle Morancet a coupé tous les budgets pour la culture, donc ce qui a fortement impacté mon arrivée dans le monde professionnel, puisque moi, c'est ce que je veux faire depuis très longtemps. Donc, le service civique, parce que j'ai déjà travaillé à premier plan et c'était super, et juste 6 mois dans cette équipe, c'est trop génial. Et donc après, ben, franchement, moi, je faisais pas un service civique pour reprendre des études ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Enfin, je fais un service civique pour avoir des contacts sympas et pour montrer ce que je peux faire après. Donc, non, l'idée, c'est de m'insérer dans le monde professionnel.
Merci beaucoup, Maëlle, d'avoir été avec nous. Je rappelle que tu es en service civique à l'association Premier Plan, qui organise donc ce festival durant toute cette semaine. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Une interview de Paolo. Il n'y a pas que les services civiques qui sont présents sur ce festival. Il y a aussi des bénévoles. Chloé, Cassandra et Paolo en ont suivi l'un d'entre eux.
C'est au milieu du centre des congrès d'Angers que l'on rencontre Mehdi, l'un des 300 bénévoles du festival Premier Plan. Entre une dizaine de groupes scolaires et plusieurs caméras, il nous explique pourquoi il s'est engagé pour la deuxième année consécutive.
Bah parce que j'aime bien le cinéma et du coup bah filer un coup de main bah pour un festival de cinéma c'est bien. En plus je suis angevin, bah du coup bah c'est bah voilà c'est la vie quoi, donc normal. Et puis bah ouais, cette idée là de bah pour moi le cinéma bah c'est bien si ça perdure encore et si je peux filer un coup de main pour qu'un maximum de gens puissent avoir accès au cinéma, à la culture, bah c'est trop bien.
Et comment t'as été sélectionné pour être bénévole à Premier Plan?
Bah il y avait un appel de bénévole en fait par mail. Et en fait, ils avaient d'abord demandé aux anciens s'ils voulaient postuler pour être bénévole. Et ensuite, ouvrir les portes à d'autres gens qui ne l'avaient pas encore fait. Et en fait, c'est comme ça. Après, tu postules par mail et après, on voit si t'es retenu ou pas.
Qu'est-ce que tu fais en tant que bénévole à Premier Plan?
Bah, en fait, il y a, on va dire, deux créneaux horaires. Il y a ceux qui sont du matin et ceux qui sont de l'après-midi plus. Bah, en fait, du coup, il y a plusieurs séances dans la journée. Il y a aussi tout ce qui est lecture de scénario, etc. Donc, en fait, on est appelé à un endroit, souvent au point info numéro 2, où du coup, il y a Hélène, la responsable des bénévoles, qui vient nous donner une tâche. Et ensuite, à la séance d'après, on refait ça. Et c'est là où, en fait, nos rôles changent, où on fait plein de trucs différents pour diversifier et que tout ne fasse pas toujours la même chose. En bénévole, chaque bénévole est attitré particulièrement à une seule salle. Il ne va pas aller dans plusieurs salles aux quatre coins d'Angers. Mais par contre, quand tu as les pauses, tu peux toujours aller voir des cinémas au pâté. Tu changes un peu quand tu es en libre. Mais ouais, par contre, c'est vraiment un travail d'équipe parce que quand tu gères une grande salle, tu as une personne à chaque porte, tu as des placeurs, tu as les. Vraiment, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe. On a constamment les toquis sur nous quasiment. Donc voilà, en vrai, c'est toujours rester en contact avec tout le monde.
Donc vous n'avez pas du tout un rôle prédéfini en tant que bénévole?
Non, globalement, non, on n'a pas de rôle défini. Après, il y en a qui préfèrent faire certains rôles et qui, du coup, le font toute la journée ou toute la semaine. Mais non, globalement, ça change à chaque fois. Ça, c'est équilibré.
Parce que, du coup, vous avez des accès à certains films et à certaines projections?
En fait, quand t'es bénévole, on te donne un pass accès 20 places. que tu peux utiliser ou pas, d'ailleurs c'est comme tu veux, et en fait bah, après tu vas voir les films que tu veux ou pas.
Et c'est toi qui as choisi à quel rythme tu étais sur le festival, ou vous avez un rythme un petit peu imposé, enfin, t'es combien d'heures par jour au premier plan par exemple?
Ça c'est plus nous qui choisissons, parce que en fait on va nous donner quelques trucs à faire dans la journée, mais bon, si on veut arrêter, si on a des impératifs, bon, on a le droit de partir puisqu'on reste bénévole. Mais moi j'aime bien faire plein de trucs, et du coup bah souvent je pars genre 2-3 heures après l'heure où je suis censé finir, faire des trucs pendant que j'étais censé faire rien, et du coup bah voilà, en fait c'est ça, tu choisis ton rythme. Soit il y en a qui sont, tu peux même choisir les jours où t'es disponible, si t'es disponible que les week-ends tu viens que les week-ends, si t'es disponible qu'à une certaine heure bah tu peux venir aussi qu'à une certaine heure. En fait globalement tu t'engages sur des jours, tu suis ses engagements, mais si tu veux faire plus bah tu peux faire plus.
Avant de nous quitter pour retourner à sa mission, Mehdi nous a expliqué pourquoi, selon lui, il faut devenir bénévole.
C'est trop bien, les gens ils sont super cool. Les personnes bah, qui sont un peu au-dessus de nous, et, qui nous disent quoi faire, ils sont vraiment super pédagogiques et pédagogues. Et ils sont vraiment super sympas, ils nous accompagnent super bien. Et vraiment, bah, l'expérience est trop bien. Tu peux voir des films parfois quand t'as un peu de temps, donc c'est vraiment génial. C'est trop bien.
Un reportage signé Chloé, Cassandra et Paolo. On continue de parler du festival Premier Plan avec toute la team Radio Campus et Radio G. Mais avant, on fait une dernière pause musicale. Cette année, comme on a dit, donc Premier Plan propose 3 rétrospectives autour de 3 thèmes. Et parmi eux, le réalisateur Werner Herzog, avec entre autres le film Signe de vie, sorti en 1968. On écoute tout de suite la musique d'intro du film, signée Stravos Chakaros. Stavros Charakos avec la musique d'intro du film Signe de vie de Werner Herzog. Vous êtes toujours sur Radio Campus et Radio G pour cette première émission spéciale consacrée justement au festival Premier Plan. Premier Plan qui diffusera le film vendredi à 10h30. Et pour cette dernière partie d'émission, on accueille en studio Paolo et Matteo. Salut les gars.
Salut Simon. Salut.
Alors le festival propose cette année plusieurs rétrospectives hors concours. 3 grandes sections d'une douzaine de films sont proposées. On en parlait donc tout à l'heure lors de nos pauses musicales, vous nous proposez dans votre chronique commune de revenir sur ces rétrospectives avec un format original. Vous avez feuilleté la programmation de ces rétrospectives et tenté d'en ressortir un mot ou un nom ou un objet, un adjectif qui reflète une partie des films proposés. La première section se consacre donc entièrement au réalisateur allemand Werner Herzog, un réalisateur qui mêle documentaire et fiction.
Oui, Werner Herzog a tourné tous ses films avec une distance certaine. Il veut montrer le réel et s'éloigner le plus possible de l'affect. C'est ce qui le démarque des autres réalisateurs. Premier Plan a choisi des films qui symbolisent cette réalisation presque documentaire de Herzog. Dans Signe de vie, tourné en 1968, il ne semble pas filmer l'acteur Peter Bruegel qui joue le héros du film, mais plutôt son état de folie. Signe de vie raconte l'histoire fictive de Strozek, un jeune soldat allemand blessé lors de la Seconde Guerre mondiale, qui doit se retirer en convalescence en Crète. Le jeune devient alors de plus en plus fou, rongé par la douleur et la fatigue de vivre. La caméra pourrait romancer l'histoire, mais non. Herzog décide de regarder la transformation de Strozek comme si nous étions témoins d'une scène bien réelle. Werner Herzog affirme par la suite son goût très certain pour le documentaire. Il nous invite ainsi à voyager un peu partout, à Munich, au Pérou et en Tchéquie dans Ennemi Intime, à Chauvet dans la grotte des rêves perdus, dans les volcans japonais dans son requiem pour Katia et Maurice Kraft, deux volcanologues décédés tous les deux en 1991, et enfin dans les hautes terres d'Angola à la recherche d'un mystérieux et insaisissable troupeau d'éléphants. Avec tous ses documentaires, Herzog montre son style singulier qu'il distingue des autres réalisateurs. Étrangement, il lie sa passion du documentaire avec un autre genre dont il est très sensible, c'est celui de la fiction.
Effectivement, et c'est mon mot, son grand film, celui avec lequel il a traversé les époques et qui le suit encore aujourd'hui, c'est Aguirre, la colère de Dieu, film majeur de la nouvelle vague allemande, pionnier dans son approche qui sera désormais une récurrence dans le cinéma d'Herzog, la petitesse de l'homme dans une nature qu'il ne peut contrôler, histoire d'un mégalomane, ici un conquistador en quête d'Eldorado qui se perd par sa folie des grandeurs, une idée qu'il reprendra dans son autre grand classique, Fitzcarraldo, un récit cette fois-ci plus humain qui traite aussi de colonisation mais au travers d'un homme moins terrifiant, toujours avec Klaus Kinski dans le rôle principal. Herzog nous conte l'histoire d'un homme fan d'opéra, prêt à toutes les folies pour en ouvrir un dans sa ville amazonienne, un film dont le mythe dépasse parfois la fiction tant les histoires qui en découlent sont folles, multiples changements d'acteurs principaux, collaboration avec des peuples locaux, une entreprise pétrolière qui les force à quitter le lieu du tournage, ou encore le bateau de plusieurs tonnes qui a franchi une montagne grâce au travail de plusieurs mois des équipes. Il trouve un certain équilibre dans L'énigme de Casper Hauser, un film dont l'histoire est proche du Elephant Man de David Lynch, mais dont l'esprit documentariste est juste dosé pour nous apporter la symbolique qu'il faut. Des projets de la démesure donc filmés comme des documentaires avec un lien fraternel avec le réel, malgré la fiction.
Une deuxième catégorie se focalise, elle, sur la ville de Naples, un lieu aussi bien mythique qu'inspirant pour les réalisateurs du monde entier.
Oui, quand je pense à Naples, je pense bien sûr à l'Italie, et quand je pense à l'Italie, je ne peux m'empêcher de penser au néo-réalisme et à son père fondateur, Roberto Rossellini, un style né après la chute de Mussolini, porté par une œuvre du réalisateur italien, Rome, ville ouverte, sortie en 1945. Une influence sans pareille, on cite souvent sa trilogie de la guerre, et notamment ce film comme l'œuvre la plus importante de l'histoire du cinéma avec Citizen Kane. André Bazin qualifiait le néoréalisme d'école de la libération et c'est sur ce mouvement que se calqueront les cinéastes de la nouvelle vague. Naples est petit à petit devenu un laboratoire de ce néoréalisme avec des figures comme Francesco Rossi, présent dans la rétrospective avec son film Main basse sur la ville, véritable plongée dans la corruption qui gangrène Naples. On a aussi Matteo Garrone, dont le cinéma est souvent qualifié de néo-néoréalisme. Dans Gomorra, présent dans la rétrospective aussi, il reconnecte la violence avec le réel sans la styliser. Et puis pour boucler la boucle, Voyage en Italie de Rossellini, peut-être le film qu'il est le plus important de voir dans cette rétrospective pour comprendre ce mouvement, issu de la période où Rossellini tournait avec sa compagne, la star suédoise Ingrid Bergman. Naples, une ville connue pour ses crimes, pour le Vésuve, pour ses fontaines, mais aussi pour avoir été la capitale de l'Argentine de 1984 à 1992.
Il est depuis le président à vie de Naples, et oui, c'est lui, Diego Armando Maradona. Premier Plan ne pouvait pas construire sa liste de rétrospectives portant sur la ville de Naples sans rendre hommage à la légende du football. Celui qui nous a quittés en 2020 est un véritable symbole de la ville. Asif Kapadia, réalisateur anglais, a rassemblé ainsi plus de 500 heures d'images inédites issues des archives personnelles du footballeur pour en faire un documentaire de plus de 2 heures. On comprend mieux à quoi ressemblait le joueur de football, mais aussi l'homme séduit autant tant par certaines drogues que par le ballon rond. Mais pour comprendre la bombe Diego Maradona qui éclata à Naples lors de son arrivée dans le club de la ville en 1984, il faudra jeter un coup d'œil au film de Paolo Sorrentino, La main de Dieu. Le réalisateur originaire lui-même de Naples raconte l'histoire d'un jeune adulte sauvé d'un accident par Maradona. Son quotidien est alors transformé comme celui de la plupart des habitants à l'arrivée du gamin en or, comme on surnommait Maradona, en provenance de Barcelone.
Et enfin, au premier plan, propose de se rendre à l'intérieur des tribunaux, au cœur des procès, réels ou fictifs. Ils représentent chacun une affaire qui mêle vérité, mensonge et remise en question.
Selon Larousse, une bête représente tout ce qui est animé, mais qui n'est pas humain. Comment les juger alors? C'est tout le questionnement qui tourne autour du film Le procès du chien de Laetitia Doche, un film qui porte son synopsis dans son nom, mais qui ouvre à d'autres sujets, comme le féminisme. Le bouleverser l'ordre établi en humanisant les bêtes, c'est ce que fait le film Ernest et Célestine, une souris et un ours qui vivent dans un monde où leurs deux espèces ne cohabitent pas. Mais ce mot ne permet pas uniquement de traiter des sujets liés aux animaux. Parfois, l'homme est suffisamment cruel pour se persuader que son confrère n'a rien d'humain et qu'il ne sert alors à rien de le traiter comme tel. C'est ce que nous voyons dans Une saison blanche et sèche qui traite de l'apartheid et des choses horribles que l'homme s'autorise à faire au nom de la déshumanisation. Des traitements qui résonnent d'autant plus en ce moment avec le génocide qui se passe à Gaza. Si on mêle la déshumanisation au sadisme, cela nous donne Punishment Park de Peter Watkins, une plongée dans un camp dans lequel des condamnés doivent traverser un désert sans eau ni nourriture et sans tomber sur des gardes qui s'autorisent tout. Un film proche du documentaire interdit dès sa sortie aux États-Unis. Et puis parfois, l'homme parle aussi de bête lorsque le côté sauvage de l'un d'eux prend le dessus sur la raison. C'est évidemment le cas dans M le Maudit, l'un des plus grands classiques du réalisateur autrichien Fritz Lang, qui nous conte l'histoire d'une enquête qui vise donc à retrouver une de ces bêtes, un tueur d'enfants. Lang nous montre la terreur opérée dans une ville entière et comment cette société va se dresser contre ce nuisible. Et puis parfois, pour un petit groupe, celui qui sort des serments devient la bête, celle qu'on doit chasser. C'est le cas de Tommaso Buscetta dans le film Le Trait de Marco Bellocchio, le premier homme à avoir trahi la Cosa Nostra, la mafia sicilienne. La bête, c'est donc un mot au sens multiple qui peut changer en fonction des considérations et des croyances qui ont été créées tout au long de l'histoire et qui ont aussi créé de multiples injustices.
L'injustice, oui, justement, puisque le tribunal nous montre le cinéma, c'est un lieu dans lequel progresse la démocratie, progresse la justice. Les rétrospectives Juges et Témoins présentent des films qui retracent des affaires véridiques qui ont fait évoluer notre société. Comme le dit si bien la programmation du 38e festival, ces procès offrent un espace de reconnaissance, de réparation symbolique et participent aux combats sociaux qui bouleversent les consciences. Dans 12 hommes en colère, par exemple, de 1957, Sidney Lumet montre qu'un seul homme peut changer un jugement et sauver des vies injustement dénoncées. Dans Une saison blanche et sèche, Ozan Palsy montre les effroyables injustices de l'apartheid à Johannesburg en 1976, où un jardinier noir et son jeune fils sont arrêtés, torturé puis tué. Mais cette histoire représentée au grand écran permet à tous de se souvenir des atrocités en Afrique du Sud à la fin du XXe siècle. Même chose dans le film réalisé par Tobias Lindholm qui interroge la moralité dans la justice. Dans son film Euwar, un commandant danois est accusé de meurtre de plusieurs civils en Afghanistan alors qu'il tentait de sauver son escouade. Là encore, les règles du droit ont dû être interrogées pour savoir comment traiter une affaire aussi complexe. Dans la section Juges et Témoins, Premier Plan veut nous refaire penser au droit et au cheminement de la justice dans le monde. Je vous invite vraiment à vous plonger la tête en avant dans les tribunaux, salles les plus appréciées des réalisateurs.
Merci beaucoup Paolo et Matteo pour la présentation de ces trois sections de rétrospective que propose le festival Premier Plan tout au long de la semaine. Et d'ailleurs, si parmi les films qui ont été cités, certains vous intéressent, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur le site de Premier Plan pour voir s'il reste encore des places et surtout pour avoir les dates. Donc l'émission touche bientôt à sa fin, mais avant on va peut-être faire un petit tour de table. On a quelques personnes qui sont encore dans le studio, des personnes de Radio G qui sont là, et si vous avez envie de revenir. Voilà un petit tour de table. Le festival, pour nous en tout cas, pour toute l'équipe, a commencé aujourd'hui, bon, sauf pour ceux qui étaient à la cérémonie d'ouverture. Comment est-ce que ça se passe là? Comment est-ce que ça a commencé? Est-ce qu'on est content d'être là?
Bah moi j'ai l'impression qu'il y a une plutôt bonne effervescence, des ressources, des jeunes personnes bien passionnées. Manon par exemple, toi tu es une grande adepte de cinéma.
Oui, moi du coup j'ai une émission cinéma, vraiment 100% cinéma sur Radio G, et c'est la première fois que je fais Premier Plan, donc je suis très heureuse de faire ça et de faire ça entourée de gens comme vous. C'est super sympa, effectivement l'émulsion elle est assez folle. Ce qu'on a ressenti aussi à l'ouverture, le vraiment quand la musique a démarré, que les gens ont frappé dans les mains, en cœur et tout, il y a eu un truc de communauté et tout que j'ai adoré. Donc je suis très contente de découvrir ça. Merci Radio G.
Parce qu'on est nombreux à être en plus sur premier plan pour la première fois. Alors je crois qu'il y en a quand même qui sont bien habitués, mais pardon Paolo, toi aussi,
moi, c'est la
tout comme moi et tout
fois
comme
que je vais vraiment assister au festival. Oui, alors j'ai pas encore été voir de film, je vais y aller plutôt enfin au cours de la semaine. Mais moi j'ai été faire un reportage par exemple avec donc Chloé et Cassandra cet après-midi. On a été étonnés par le nombre de gens qui sont là-bas, de toute l'ambiance qu'il y a et puis surtout de tous les âges, puisque ça permet à énormément de groupes scolaires de faire des sorties pour aller voir des films, pour s'imprégner de la culture aussi. C'est super important, donc ce festival-là, oui, il offre tout ça.
Et il y a des films qui te tentent et qui tentent aussi les autres personnes autour de la table.
Moi, j'ai prévu ma soirée mardi soir pour la soirée What the Fuck avec les deux films de la sélection. Ils ont appelé ça Vertige, Plus fort que le diable en avant-première et Flush juste après. Donc voilà, soirée vraiment réservée premier plan.
Moi, comme j'en parlais dans la chronique avec Matteo, Diego Maradona, évidemment, c'est pas un hasard si j'en ai parlé, puisque je suis un grand fan de foot, donc pourquoi pas aller voir un peu son documentaire sur lui.
Maradona qui n'a malheureusement pour toi pas joué à l'Atlético Madrid.
Et non, malheureusement, mon club préféré.
Eh bien, ce sera le mot de la fin de cette émission. N'hésitez pas donc à la réécouter, cette émission qui touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés sur les antennes de Radio Campus et Radio G. Merci à toute l'équipe. Merci à Johan, Suzanne, Jules, Ninon, Sidonie, Chloé, Cassandra, Paolo et Matteo. Merci à Elliot à la technique. On se retrouve lundi prochain pour notre deuxième émission consacrée à Premier Plan. D'ici là, passez une bonne soirée et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.